Mais le véritable test est de persévérer jusqu'à la fin. Qui compage 96, que met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu, Luc 9, 62. Une obéissance sporadique ne suffit pas. Christ veut que ceux qui le suivent soient dans une obéissance complète et constante. 7. Renoncer à tout pour le suivre? Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple, Luc 14, 33. Renoncer à tout signifie abandonner toutes les possessions matérielles qui ne sont pas absolument nécessaires et qui pourraient être utilisées pour propager l'Évangile. C'est d'investir dans l'œuvre du Seigneur tout ce qui ne sert pas à satisfaire les besoins courants et abandonner son avenir à Dieu. Celui qui cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice croit qu'il ne manquera jamais de quoi manger et se vêtir. Par conséquent, il ne peut pas garder pour lui un excédent d'argent inutile alors que des âmes périssent parce qu'elles n'ont pas l'Évangile. Il ne veut pas gaspiller sa vie à accumuler des richesses qui tomberont entre les mains du diable lorsque le Seigneur reviendra pour enlever ses saints. Il veut obéir à l'ordre du Seigneur qui a demandé de ne pas accumuler des richesses sur la terre. En abandonnant tout, il offre ce qu'il ne pourra pas garder de toute façon et aussi tout ce qu'il a cessé d'aimer. Si, en rendant témoignage, nous produisons des disciples, alors je ne doute aucunement que ces disciples produiront à leur tour d'autres disciples, et ainsi de suite. Cela signifie que nous devons dès à présent commencer à former un disciple qui, plus tard, produira un autre disciple semblable à lui-même. Il vaut mieux produire quelques vrais disciples plutôt que des multitudes de convertis. Il faut bien que Dieu commence quelque part. À présent, la question est de savoir où il doit commencer. Permets-moi de te dire quelque chose de personnel. Je suis chrétien depuis 1966, j'ai prêché la parole de Dieu sur 3 continents, j'ai même écrit un livre sur ce que doit être un disciple. Mais je vais te dire, page 97, quelque chose qui va peut-être te choquer, il n'y a pas si longtemps que je suis devenu un disciple. Je n'avais pas encore rempli la 7e condition ci-dessus pour être un vrai disciple. Je n'avais pas encore renoncé à tout. À présent, je l'ai fait. Je crois que Dieu peut maintenant commencer à m'utiliser pour produire des disciples et non des convertis. Es-tu également un disciple? Relis les 7 conditions à remplir pour être un disciple. Es-tu qualifié? Sinon, tu vas produire des hommes qui te ressemblent et c'est horrible. Je crois aujourd'hui qu'il vaudrait mieux, pour un chrétien qui n'est pas un disciple, ne pas rendre témoignage du tout. Car il remplira la maison de Dieu de mauvais chrétiens. Je voudrais te poser une question personnelle. Si ta femme avait un défaut personnel, qui devait automatiquement se traduire par une malformation chez ses enfants, qui naîtrait ainsi sans yeux, sans nez, sans jambes, sans bras, ou avec 2 têtes, etc., et si l'on te demandait si elle devait continuer à mettre au monde des enfants, que répondrais-tu? Le bon sens devrait te faire répondre qu'il faudrait l'empêcher de mettre au monde des êtres malformés. Les chrétiens qui ne sont pas eux-mêmes des disciples produisent des convertis qui leur ressemblent, c'est-à-dire des êtres spirituellement malformés. Permets-moi de te dire que le commandement de Jésus est de faire des disciples et non des convertis. Arrête de produire des convertis. N'ouvre plus la bouche pour rendre témoignage. Ne donne plus aucun traité à personne tant que Dieu n'a pas rendu témoignage à ton cœur que tu es bien un disciple de Christ, selon les conditions énoncées dans sa parole et que le frère MacDonald nous a résumées dans les 7 points précédents. Si tu es un disciple, continue à témoigner. Tu produiras des disciples et le royaume de Dieu progressera. Que Dieu te bénisse. Page 98. Le fardeau pour les âmes. Il n'y a aucune raison de faire cette prière que de nombreux chrétiens adressent souvent au Seigneur. Seigneur, donne-moi un fardeau pour les âmes. Comme si le fardeau pour les âmes était quelque chose de facultatif que le Seigneur donne à ses disciples indépendamment de lui-même. Ces chrétiens peuvent faire une telle prière pendant des années, elle ne sera jamais exaucée. Lorsqu'une personne est remplie du Seigneur Jésus, elle a un fardeau pour les âmes? Tous les véritables chrétiens brûlent pour les âmes perdues. Ce n'est pas quelque chose qu'ils essayent de produire en eux de temps en temps. Cela fait partie de la vie surnaturelle qu'ils ont reçue du Seigneur Jésus. Tous ceux qui se sont complètement abandonnés entre les mains du Seigneur, ceux qui n'ont plus aucun intérêt dans ce monde, ne brûleront que pour Christ. En brûlant pour lui, ils aimeront d'un amour brûlant ce pour lequel il est mort. Le monde sait ce que cela signifie que de s'engager pour une cause? Je voudrais que tu lises comment un étudiant américain s'est consacré au communisme, puis comment un jeune Africain s'est engagé à devenir le premier ministre de son pays. Après cela, demande-toi si tu t'es engagé de la même manière envers Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, tu n'as aucun fardeau pour les âmes? Voici le premier témoignage. Nous, communistes, subissons un pourcentage de pertes très élevé. Nous sommes de ceux qu'on fusille, qu'on pend, qu'on lynche, qu'on passe au goudron, qu'on enduit de plumes, qu'on emprisonne, qu'on calomnie, qu'on ridiculise, qu'on destitue de leurs emplois et à qui l'on rend la vie impossible de mille manières. Nous vivons dans la pauvreté. Nous abandonnons au parti chaque centime que nous gagnons au-delà de ce qui nous est absolument indispensable pour subsister. Nous, page 99, n'avons ni temps ni argent à consacrer au cinéma, à des concerts, à des steaks épais, à de belles villas et à des voitures de luxe. On dit que nous sommes des fanatiques. C'est vrai, nous le sommes. Notre vie est dominée par un seul principe directeur, le triomphe du communisme mondial. Nous, communistes, avons une philosophie de la vie que tout l'or du monde ne saurait acheter. Nous avons une cause pour laquelle nous combattons, un but précis dans notre vie. Nous soumettons notre insignifiante personne à un grand mouvement de l'humanité. Et si notre existence semble difficile, notre moi profond est pourtant amplement récompensé par la pensée que chacun de nous, pour sa petite part, contribue à l'avènement de quelque chose de nouveau, de vrai et de meilleur pour tout le genre humain. La seule chose qui compte pour moi, dans ma vie, c'est la cause du communisme. C'est tout à la fois ma vie, mon travail, ma religion, mon passe-temps, ma bien-aimée, ma femme, ma maîtresse, ma nourriture et mon breuvage. J'y travaille tout le jour et j'en rêve la nuit. Son emprise sur moi, loin de diminuer et augmente avec le temps. C'est pourquoi je ne puis m'engager dans une amitié, une affaire de cœur ou même une simple conversation sans la relier à cette force qui tout à la fois conduit et oriente ma vie. J'évalue les gens, les livres, les idées et les actes selon les faits qu'ils ont sur la cause du communisme et selon leur attitude à son égard. J'ai déjà été mis en prison pour mes idées. Si cela était nécessaire, je suis prêt à faire face à un peloton d'exécution extrait du livre « Le vrai disciple » de William MacDonald. Voici à présent le second témoignage. J'étais parvenu à la grande décision de ma vie, consacrer toute mon énergie à la politique. Je veux faire comprendre que j'étais en train de réorienter complètement mes habitudes personnelles, mon code de conduite et même mes principes éthiques et culturels. Je ne pouvais plus me contenter de faire autant page 100 que possible ce qui me plaisait et aussi peu que possible ce qui me déplaisait ou me gênait. En un sens, j'étais en train de passer par une conversion spirituelle profonde. À présent, la vie qui m'attendait était une vie de reniement de soi et de sacrifice personnel. Je devais abandonner beaucoup de choses qui, bien qu'innocentes en elles-mêmes, pouvaient représenter un obstacle pour la cause qui devenait le but de ma vie. Je devais délibérément juger chacune de mes actions et décisions à partir d'un principe bien défini. Pourra-t-elle me rapprocher davantage de mon but ? Par ma façon de m'habiller, mon langage, mes habitudes, je devais prêcher mon évangile, même si cela signifiait que je devais faire les choses d'une façon qui me paraisse désagréable ou même détestable. William Compton, dans The African. Ces deux hommes, ayant des origines très dissemblables, mais dont les buts étaient très proches, ont plusieurs choses en commun. 1. Une vision et un but clair. 2. Un objectif assez large pour englober tout autre objectif secondaire. 3. Un engagement déterminé à atteindre ce but. 4. Une identification personnelle totale avec ce but, de sorte qu'il est devenu pour eux le sens même de leur existence. 5. Une joyeuse acceptation du prix suprême à payer pour atteindre ce but, sans jamais se plaindre. 6. Une profonde certitude d'avoir raison et l'assurance de réussir. Quand notre détermination à glorifier le Seigneur Jésus deviendra semblable à celle de ces deux hommes et bien plus encore, car le Seigneur mérite infiniment plus notre amour, nous ressentirons toujours un fardeau. Nous n'aurons plus besoin de demander au Seigneur qu'il nous donne un fardeau. Page 101. Nous succomberons sous le poids d'un écrasant fardeau. Ce fardeau est aussi donné à ceux qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur. celui qui va dans les rues nuit et jour pour témoigner de l'amour de Dieu, qui parle à tous de la merveilleuse gloire du Seigneur, celui-là a un fardeau. Il attachera son regard au visage des pécheurs endurcis et verra leurs besoins désespérés. Il regardera alors à Jésus, verra en lui la réponse éternelle de Dieu et ne sera plus jamais le même. Si quelqu'un refuse encore de payer une partie du prix pour être un disciple, il découvrira que ce qu'il ne veut pas encore abandonner au Seigneur sera comme une crevasse dans une citerne, par laquelle se perdront la plupart des choses que Dieu avait en réserve pour lui. As-tu besoin d'avoir un fardeau? Cela ne peut être que parce que tu manques de vision. As-tu besoin d'une vision? Cela ne peut être que parce que tu ne fixes pas assez les regards sur la face du Seigneur Jésus. Ne fixes-tu pas assez le regard sur le Seigneur Jésus? Cela ne peut être que parce que tu es distrait par quelque chose de terrestre. Peux-tu dire aujourd'hui au Seigneur, avec une conscience claire, qu'est l'autre égé ciel que toi? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi? Psaume 73, 25. Si tu peux répondre oui, alors sois béni. Dans le cas contraire, tu n'éprouveras jamais de fardeau authentique pour les perdus. Comptes-tu faire quelque chose à cet effet, même partiellement, afin de détourner ton attention de ce qui te distrait? Beaucoup de ceux qui voudraient être des témoins peuvent honnêtement se demander comment faire, pratiquement, pour rendre témoignage. C'est une question légitime, et c'est pourquoi nous allons étudier deux exemples dans la Bible montrant comment l'Évangile a pu être annoncé en tête-à-tête. Nous avons choisi un exemple concernant le Seigneur Jésus, le témoin suprême, et un autre concernant Philippe l'évangéliste. Page 102. Le Seigneur et la femme samaritaine Jean 4:1-42. 1. C'était une situation naturelle. Le Seigneur attendait de manger devant un puits, et la femme vint pour puiser de l'eau. 2. Le Seigneur prit l'initiative d'entrer en contact avec la femme. Il lui demanda à boire. 3. Son contact était naturel? Puisqu'elle était venue puiser de l'eau, il était naturel et normal de lui demander à boire. Ce contact permit aussi d'établir un dialogue. 4. Au bon moment, le Seigneur détourne la conversation du domaine naturel au domaine spirituel afin de ne pas perdre trop de temps. 5. Il introduisit le sujet spirituel d'une manière qui créa en elle un désir, au lieu de l'irriter. 6. Jésus la conduisit plus loin qu'une simple introduction lorsqu'il lui parlait de la source de la vie éternelle. Il dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4:14. Le Seigneur disait la vérité. Il ne parlait pas des choses dont il ne pouvait pas prouver la véracité. Si le témoignage d'un chrétien n'est pas vrai, il ne produira pas du fruit qui demeure. Les mensonges ne peuvent jamais servir Dieu. Si tu n'es pas pleinement satisfait de Jésus, tu ne feras jamais des convertis solides en leur disant que Jésus satisfait pleinement. 7. Jésus permit à la femme de lui demander ce qu'il offre à Jean 4:15. 8. Jésus lui révèle à son péché. Il lui dit « Va appeler ton mari » Jean 4:10. 9. Elle essaya de cacher son péché, mais Jésus l'exposa davantage Jean 4:17-18. 10. Elle fut convaincue de péché, mais elle essaya encore de se cacher derrière des motifs religieux. Elle proclama que Jésus était un prophète Jean 4:19-20. Page 103. 11. Jésus continua à lui présenter l'Évangile et se révéla à elle non comme un prophète, mais comme le Christ. 12. Ce témoignage produisit du fruit en elle et en beaucoup d'autres qui crurent en lui à cause de son témoignage Jean 4:39-42. 13. Jésus resta avec eux pour les affermir davantage dans cette nouvelle vie Jean 4:40. 14. Le Seigneur avait un secret qui expliquait son succès dans l'évangélisation. C'était son engagement total, sa soumission, son renoncement à tout et son sens de l'urgence. Il le dit lui-même, en ces termes, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson Jean 4:34-35. Le Seigneur était consacré. Il mit de côté la nourriture et oubliait la faim, pour pouvoir délivrer cette femme du péché et la gagner à lui. Sa nourriture était de faire la volonté de Dieu. Il était déterminé à accomplir l'œuvre de Dieu. Il vit qu'il ne pouvait pas attendre, car la moisson aurait pu être perdue. 15. Ce qui intéressait le Seigneur, c'était le salut de cette femme et non le souci de la gagner à une croyance, une doctrine, un système ou une organisation. Il ne mentionnait jamais ces choses et n'y pensait jamais non plus. 16. Il s'effaça lui-même et ne mentionna son identité que parce que cela était indispensable pour l'exercice présent de son ministère. 17. Il ne flatta pas la femme pour la faire venir à lui en se conformant à ce qu'elle-même aurait souhaité faire. 18. À présent, pour ce qui te concerne, va et fais de même. Philippe et l'eunuque éthiopien, acte 8, 26-40. 1. La relation de Philippe avec Dieu était juste, de sorte que Dieu put l'envoyer. Page 104. 2. Il fut capable d'entendre l'ange lui parler. 3. Il fut écarté d'un ministère populaire pour être envoyé sur une route dans le désert et il obéit parce qu'il cherchait à satisfaire Dieu plutôt qu'à avoir du succès. Acte 8, 27. 4. Il attendit et observa. Il savait que Dieu l'avait envoyé là pour un but. Il vit l'eunuque. Dieu s'attend à ce que nous utilisions nos sens. 5. Le Saint-Esprit lui parla avance et approche-toi de ce char. Acte 8, 29. 6. Il courut vers l'eunuque. Il savait que c'était urgent. 7. Il écouta la lecture de l'eunuque. 8. Il provoqua un dialogue en posant une question. Acte 8, 30. 9. L'eunuque répondit en posant une question. Acte 8, 34. 10. Alors Philippe commença à parler parce qu'il était parvenu à créer un désir dans le cœur de l'eunuque. 11. Philippe connaissait l'évangile et le présenta entièrement jusqu'au baptême d'eau. 12. Il n'a pas demandé à l'eunuque s'il voulait recevoir Christ. Un témoin ne doit jamais faire cela. La personne qui écoute l'évangile doit demander ce qu'elle doit faire. 13. L'eunuque demandait le baptême comme un signe de sa foi en Christ. 14. Philippe insista sur la nécessité d'un engagement authentique si tu crois de tout ton cœur. Acte 8, 37. 15. L'eunuque confessa sa foi. 16. Philippe n'a pas modifié les choses pour faciliter la tâche de l'eunuque. Le char fut arrêté, tous deux entrèrent dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. 17. Le Seigneur enleva Philippe immédiatement après qu'il eut achevé son ministère envers l'eunuque. 18. Philippe n'a pas tenu compte de la position sociale de cet homme. Il lui présenta tout le conseil de Dieu, le mieux qu'il pouvait le faire et exigea de lui la même obéissance qu'il aurait exigé de quiconque. Page 105. 19. Il n'a demandé aucune contribution financière. Il ne lui a pas présenté les besoins de l'œuvre. 20. À présent, pour ce qui te concerne, va et fais de même. L'urgence de la tâche, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jean 4, 34. Il y a une chose qui ne peut pas attendre, c'est une récolte qui est déjà mûre pour la moisson. Une récolte mûre ne peut être laissée ainsi que pendant une courte période avant d'être moissonnée. Si elle n'est pas moissonnée pendant cette période limitée, elle sera perdue. Tout le labeur du fermier, qui a consisté à planter, à arroser et à sarcler, sera perdu si la récolte n'est pas moissonnée à temps. Pour ce qui concerne les âmes, le sujet est d'une importance encore plus vitale. Si quelqu'un est convaincu de péché et désire s'engager sur le chemin de la vie, il ne gardera pas éternellement ce désir. Si on ne lui présente pas la vérité, afin qu'il agisse en conséquence, il peut se passer un certain nombre de choses. La faim spirituelle et même la conviction de péché peuvent disparaître du cœur de cet homme. Il deviendra tellement endurci que plus rien ne pourra encore réellement le troubler. 2. Dans son désespoir, il peut se tourner vers quelque chose de mondain, comme le désir d'être célèbre, de rechercher des personnes de l'autre sexe, de gagner de l'argent ou d'autres choses semblables pour tenter de combler le vide que Jésus aurait dû remplir dans sa vie. 3. Il peut se tourner vers de faux systèmes religieux d'origine diabolique pour tenter de satisfaire la soif ardente qu'il habite. Page 106. Ceci veut dire que les moissonneurs doivent être prêts à présenter le chemin du salut à l'heure où quelqu'un en éprouve le besoin. Nous ne pouvons pas attendre. Les fausses philosophies, les fausses religions, etc. sont à l'œuvre et déploient tous leurs efforts dans le but de gagner le monde pour le diable. Tous les chrétiens doivent être mobilisés. Ils doivent agir maintenant. Ils doivent agir immédiatement. Dans de nombreux pays, les portes se ferment à l'évangile du Seigneur. Les forces du communisme militant, de l'islam, de l'humanisme, des religions traditionnelles, du faux christianisme, sont en train de déployer tous leurs efforts, en s'unissant s'il le faut, pour lutter contre l'Église. Même dans notre pays, où existe la liberté d'expression religieuse, aucune garantie ne nous a été donnée par le Seigneur que les portes resteraient ouvertes. Les forces de l'enfer ne prennent pas à la légère le fait que nous ayons la liberté. Les occasions qui nous sont offertes peuvent être perdues en peu de temps. Le seul moment dont nous sommes sûrs, c'est le moment présent. Les portes sont ouvertes maintenant et nous devons agir maintenant. Le Seigneur attend que nous agissions maintenant. L'avenir appartient à Dieu et il en prendra soin. Le présent nous appartient pour que nous fassions tout ce que nous pouvons pour le Seigneur. Tous les talents dont nous disposons doivent lui être consacrés maintenant. Toutes les énergies dont nous disposons doivent être utilisées maintenant. Tout l'argent que nous avons doit lui être remis pour l'œuvre à accomplir maintenant. Toute notre capacité de réfléchir, de planifier et de travailler doit être mise en œuvre maintenant. Rien ne doit être mis en réserve pour l'avenir. Dieu cherche des ouvriers aujourd'hui. Si, un jour, les portes se fermaient, je voudrais pouvoir dire au maître de la moisson « Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pendant que les portes étaient ouvertes. Je ne suis pas resté en arrière. Je n'ai pas caché le moindre de mes talents. Je n'ai retenu aucune de mes capacités intellectuelles ou spirituelles. » Page 107. Tuelle. Je n'ai gardé aucun franc. J'ai tout donné. Je me réjouirai alors dans le Seigneur, que je sois libre ou en prison. En revanche, si j'ai retenu quelque chose qui pouvait être utilisé pour le Seigneur, par exemple de l'argent, qui aurait pu être utilisé pour l'Évangile, je serais un homme extrêmement malheureux. J'aurais dilapidé les opportunités et les occasions qui m'étaient offertes, et ce serait trop tard, peut-être éternellement trop tard, pour participer à la moisson du Seigneur. Que Dieu me délivre d'une telle sombre éventualité. Les dangers entraînés par la fidélité dans le témoignage. La fidélité dans le témoignage, bien qu'elle soit une source de bénédiction, comporte aussi des dangers. Je voudrais commenter brièvement certains dangers qui attendent le témoin fidèle. Le brisement de cœur. Certains de ceux pour qui tu t'es dépensé et pour lesquels tu as dépensé se détourneront de la voie du salut et retourneront en arrière. Ils te briseront le cœur. Le Seigneur a vécu la même chose, car la Bible dit dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12 et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Jean 6, 66-67. Paul a dû éprouver les mêmes souffrances quand tous ceux qui étaient en Asie se sont détournés de lui et quand des mâles a abandonné, par amour pour le siècle présent. Dans de tels moments, ne te décourage pas. Le Seigneur, qui connaît la profondeur de l'agonie de l'âme, lorsqu'un disciple potentiel rétrograde, veillera à ce que tu ne sois pas seul et à ce qu'il y en ait quelques-uns qui pourront dire, comme les 12 seigneurs, à qui d'autres irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Page 108. Éternel, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jean 6, 68-69. Il veillera à ce qu'il y ait un fidèle qui reste avec toi, pour que tu puisses dire Luc seul, est avec moi. De Timothée 4, 11. 2. Les difficultés en tant que témoin du Seigneur Jésus, le résultat de ton travail, produira quelque chose de semblable au résultat de son œuvre. Il a dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà allumé? Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère, Luc 12, 49-53. Ton œuvre divisera les familles, car un évangile qui ne divise pas est un faux évangile. Tu verras ceux que tu auras emmenés au Seigneur rejetés, persécutés et chassés de chez eux. Hier, on m'a parlé d'une de nos sœurs. Elle a été tirée de son lit en pleine nuit et battue sans pitié par son frère aîné. Sa chemise de nuit a été déchirée et elle a été mise à la porte avec tous ses effets. Qu'avait-elle fait ? Rien, si ce n'est d'avoir commis le crime séculaire de croire au Seigneur Jésus et d'avoir refusé de retourner en arrière. Si de telles circonstances se produisaient régulièrement, tu pourrais alors te demander, à propos des personnes traitées de cette manière, pense-t-elle, que je leur ai causé un grand tort en les amenant au Seigneur ? Évidemment, un tel traitement est la meilleure chose qui puisse arriver à un chrétien, mais n'y en aura-t-il pas quelques-uns qui, pendant la persécution la plus horrible, s'en prendront au Seigneur Jésus ou à celui qui les a amenés au Seigneur ? Fidèle témoin, même en de pareils moments, quand tu page 109, éprouvera les souffrances et l'agonie de la persécution, rapproche-toi du Seigneur d'une manière toute particulière. Lui aussi est passé par de tels moments. Puisse-t-il se tenir à tes côtés pour que tu ne sois pas seul. Gloire à Dieu. Quelques principes d'encadrement nous avons déjà dit que le but du témoignage est de produire des disciples et non des convertis. Les responsabilités du témoin ne font que s'accroître à partir du moment où quelqu'un se convertit. Le disciple qu'il a amené au Seigneur doit maintenant veiller à ce qu'il devienne lui aussi un disciple. Il devra bien entendu le baptiser immédiatement après qu'il ait cru. Ensuite, il devra l'introduire dans une assemblée locale et le présenter à l'Église. Il devra ensuite prendre soin de lui, l'enseigner et l'instruire par son exemple, que ce soit pendant les réunions de l'assemblée locale ou en dehors de ces réunions, jusqu'à ce qu'il ait franchi les 7 étapes pour être un disciple. Il lui enseignera ensuite comment aller faire d'autres disciples et l'œuvre du Seigneur progressera selon le plan prévu par Dieu. Que son nom soit glorifié. Question 1. Annonce le commandement de Jésus-Christ ordonnant de faire de toutes les nations des disciples. 2. Quelles sont les deux conditions fondamentales que doit remplir chaque témoin ? 3. Définis brièvement les grandes lignes du message qu'un page 110 témoin doit communiquer. 4. Quel est le but du témoignage ? 5. Quels sont les dangers courus par celui qui ne témoigne pas ? 6. Cite 3 avertissements donnés par Dieu à ceux qui ne sont pas sauvés en donnant les références. 7. Un chrétien a-t-il le choix de témoigner ou non ? 8. Pour ce qui concerne ceux qui ne sont pas évangélisés, quelles sont les questions que Jésus posera certainement à ceux qui auront cru en lui et qui seront difficiles à répondre ? As-tu une idée de la réponse que tu lui donneras personnellement au jour du jugement ? 9. En quoi l'attitude d'un chrétien envers l'évangélisation risquera-t-elle de choquer ceux qui n'ont pas été évangélisés ? 10. Quel rôle joue la Bible dans le témoignage ? 11. Que se passe-t-il si la vie de prière du témoin est pauvre ? 12. Est-il nécessaire de témoigner à autant de personnes que possible ou faut-il concentrer ses efforts sur quelques-uns seulement ? 13. Que doit faire un chrétien si son témoignage continue à ne produire aucun fruit ? 14. Quelles sont les conditions de base pour être un disciple ? 15. As-tu rempli chacune de ces conditions ? 16. Tel père, tel fils. En matière d'évangélisation, ce proverbe entraîne des conséquences lointaines. Lesquelles ? 17. Pourquoi est-il nécessaire de faire des disciples et pas des convertis ? 18. Quelle est la conséquence du fait de rétrograder sur l'objectif de gagner des nations entières pour Christ ? 19. Qu'est-ce que le fardeau pour les âmes perdues ? 20. Comment peut-on recevoir ce fardeau spirituel pour les âmes perdues ? Page 111. 21. Quel prix doivent payer tous ceux qui veulent être des témoins efficaces ? 22. Est-ce que ton engagement à évangéliser le monde surpasse l'engagement d'un communiste envers le communisme mondial ? 23. Le Seigneur Jésus était un maître en matière d'évangélisation personnelle. justifie cette déclaration à partir de sa rencontre avec la femme samaritaine. 24. Pourquoi l'évangélisation est une tâche des plus urgentes? Manifestes-tu cette urgence dans ta propre vie? Très important. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je t'encourage à le faire. Pour t'aider, voici quelques étapes à suivre. Reconnais que tu es un pécheur par ta nature et par tes pratiques. Tu n'as aucun espoir d'être sauvé par tes efforts personnels. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en action. Dans une prière sincère, confesse-lui tes péchés l'un après l'autre. Ne mets aucun péché dont tu te souviennes. Détourne-toi sincèrement de tes péchés et abandonne-les. Si tu avais l'habitude de voler, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement de péché dans tous les aspects de ta vie. Mais, si tu es sincère, il te donnera la force de cesser de pécher. Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14, 6. La Bible dit car il y a un seul Dieu et aussi un. Page 112. Seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tout saint Timothée 2, 56. Il n'y a de salut en aucun autre en dehors de Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, acte 4, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, Jean 1, 12. Mais considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Ce renoncement implique de renoncer à nos intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Il veut aussi que ses disciples se chargent de leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour servir ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire par lui dans une nouvelle direction? Es-tu disposé à souffrir et même à mourir pour lui, si cela était nécessaire? Jésus n'a que faire de ceux qui s'engagent à moitié. Il exige un engagement total. Il ne reçoit et ne pardonne que ceux qui sont prêts à le suivre à n'importe quel prix. Réfléchis à cela et calcule le coût. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors voici ce que tu dois faire. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, 20. Ne veux-tu pas faire une prière, comme celle que je te propose maintenant, ou une prière personnelle, sous l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô mon Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et donne-moi la vie éternelle à l'instant même. Je veux te suivre à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Page 113. Si tu as fait sincèrement cette prière, Jésus t'a exaucé. Il t'a justifié devant Dieu et a fait de toi, à l'instant même, un enfant de Dieu. Je te prie de m'écrire afin que je prie pour toi et que je t'aide dans ta nouvelle marche avec Jésus-Christ. Page 114. Ouvrage récemment paru aux éditions Paroles de vie distribué par correspondance ou par votre libraire habituel. Il est venu libérer les captifs de Rebecca Brown. Histoire récente de la vie et de la conversion de la grande prêtresse de Satan pour tous les USA. Le ministère de la délivrance. 74 francs français. Préparer la guerre de Rebecca Brown. Suite du premier livre. Approfondissement du ministère de la délivrance. Nombreux témoignages et conseils pratiques. 79 francs français. Un vase d'honneur de Rebecca Brown. D'autres conseils pratiques pour la délivrance, notamment des liens de l'occultisme et pour le combat spirituel. Nécessité de la sanctification pour une réelle délivrance. Témoignage. 75 francs français. La séduction de la chrétienté de Devon Teta. Mkmaon. les fausses doctrines et l'occultisme dans l'Église sous le couvert de la science et de la psychologie. 72 francs français. Délivré des puissances des ténèbres d'Emmanuel Anny. Témoignage récent de la vie et de la conversion d'un grand sorcier du Nigeria qui était aussi membre d'une église chrétienne. 25 francs français. À l'assaut des hordes de l'enfer de Waverley. Un pasteur baptiste américain découvre les dons spirituels et la délivrance. Un manuel pratique de délivrance. 74 francs français. Le chemin du service chrétien de Zacharie Fomom. Comment découvrir et exercer notre ministère personnel sous la direction et dans la puissance du Saint-Esprit. 50 francs français. Le chemin de la prière victorieuse de Zacharie Fomom. Les conditions de la prière exaucée selon la Bible. Un livre clair et percutant qui bouleversera votre vie de prière. 55 francs français. La croix dans la vie du chrétien de Zacharie Fomom. L'importance et la signification d'une vie crucifiée et la portée de l'œuvre de la croix dans la vie et la ministère du chrétien. 50 francs français. Page 115. Combat contre les démons à Meutlingen de J.C. Blumard. L'histoire mouvementée de la délivrance d'une paroissienne d'un pasteur protestant qui découvre la délivrance. 25 francs français. Deux expériences vécues dans l'au-delà avec Jésus-Christ de B. Fernandez. Vision récente de l'enfer et du ciel et des préparatifs de l'enlèvement de l'épouse. 10 francs français. Va à Bethel de Capena, Sibouabois. Témoignage récent de la vie et de la conversion de Lisu Jibula, adepte africain de la haute magie indienne, mort et ressuscité, et actuellement pasteur. Témoignage qui fortifiera votre foi en la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ. Explication sur le monde spirituel. 35 francs français. Rescapé de l'enfer de Bakajik à minute. Témoignage récent de la vie et de la conversion d'un adepte zaïrois de la magie, initié par un prêtre catholique, qui était aussi le neveu de l'un des derniers papes. Démontre les liens étroits existants entre la magie et le catholicisme romain. 25 francs français. La guérison divine, par la foi en Jésus-Christ de francs français. Bosworth. Exposé puissant de la doctrine biblique de la guérison divine. Des milliers de malades ont été guéris à la seule lecture de ce livre qui fortifie merveilleusement la foi en la parole de Dieu. 52 francs français. La délivrance de l'emprise des démons de Zacharie Fomom. Tout ce qu'il faut savoir sur la délivrance, y compris sur la délivrance des chrétiens, dans un petit livre clair et précis. 28 francs français. Des avantages spéciaux sont accordés à nos correspondants d'Afrique et du tiers-monde. Sur demande et, dans la limite de nos moyens, nous donnons aussi une Bible gratuite à ceux qui n'en possèdent pas et qui ont des moyens insuffisants pour l'acheter. Demandez-nous notre bulletin de commande. Page 116. Table des matières. Préface. 3 premières parties, le baptême d'eau. 5 deuxième partie, le baptême du Saint-Esprit. 39 troisième partie, le témoignage chrétien. 69 très important. 112. Page 117.